Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie de notre épisode qui s'intéresse à l'ancien Premier ministre John Curtin. Et dans celui-ci, eh bien, on va s'intéresser justement à la période durant laquelle ce monsieur, originaire d'Australie occidentale, a exercé le rôle de chef de gouvernement. C'est en plein durant la Seconde Guerre mondiale. Il va s'illustrer très notablement durant cette période. Je vous propose de commencer à l'écouter tout de suite. Donc John Curtin devient Premier ministre à peine 2 mois après ce fait majeur dans la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, ça se passe plus à l'autre bout du monde, mais vraiment aux portes de l'Australie. Et ça change vraiment tout pour l'Australie. C'est un vrai changement. Cette fois, la guerre menace directement. C'est un vrai tournant.
Oui. Alors, ce que les Australiens à l'époque ne savent pas, c'est que les Japonais n'ont aucun plan militaire, aucune envie, aucune vision de vouloir envahir l'Australie. Mais ça, on le sait parce qu'il y a des historiens qui ont travaillé là-dessus. Bien que ça reste un des grands mythes australiens aujourd'hui, des gens qui sont pas très bien informés. Oui, l'Australie a failli être envahie pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est se donner de l'importance, mais en réalité, les Japonais n'en ont pas besoin. Ils ont toutes les ressources dont ils ont besoin sur les autres pays d'Asie qu'ils ont conquis. Donc, le fait que nous le sachions aujourd'hui n'est pas, si vous voulez, important vis-à-vis de la perception de l'époque. Et la perception de l'époque, c'est « Oh là 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 là, on a une armée impériale qui descend sur toute l'Asie Pacifique » qui a l'air absolument invincible, qui gagne, et qui gagne même vis-à-vis de l'Empire britannique. Parce que les Japonais défont les Britanniques en 42, en février 42, à Singapour. Et là, c'est un choc pour l'Australie, parce que l'Australie ne peut pas se défendre toute seule. Elle a une toute petite armée. L'Australie est dans la relation avec la Grande-Bretagne qui lui assure la sécurité à l'est de Singapour. Donc, le pacte, en fait, si vous voulez, c'est que la sécurité nationale de l'Australie est assurée par Londres via le réseau impérial auquel l'Australie contribue. Or, ce réseau, on vient de voir que ceux qui en sont les principaux opérateurs, les Britanniques, doivent non seulement se font battre par les Japonais, mais en plus, sont en grande difficulté en Europe à un moment où Hitler est certes en perte de vitesse vis-à-vis des Soviétiques, mais c'est quand même, on est quand même au cœur de la guerre en 42. Donc l'Australie se retrouve toute nue au milieu du Pacifique.
Et c'est donc à ce moment-là, alors aujourd'hui ça peut sembler évident, mais c'était pas le cas à l'époque, c'est vraiment à ce moment-là que ça se passe face au fait que l'Australie ne peut plus compter sur la Grande-Bretagne, c'est John Curtin qui prend l'initiative de se tourner vers les États-Unis. Et j'ajoute au-delà de ça, que alors les États-Unis c'est aussi un pays du Pacifique, on peut comprendre que ça semble normal et que ces pays font tous partie de ce qu'on appelait à l'époque les alliés. Mais le choix est loin d'aller de soi à l'époque. D'ailleurs, il est très vivement critiqué en Australie par de nombreuses personnes qui ne comprennent pas ce choix de se tourner vers les États-Unis.
Oui, aujourd'hui, ça pourrait nous paraître bizarre, mais à l'époque, alors en fait, ce qui est très fort, c'est que Curtin dit dans la presse, c'est un appel à l'aide, hein. C'est vraiment un appel à l'aide. Nous sommes ouverts aux États-Unis, venez nous aider. Enfin, c'est pas la citation dans le texte, hein, mais ça s'appelle Call to America. Et effectivement, culturellement, en Australie, c'est très fort parce que la relation avec la Grande-Bretagne est très importante. Vous avez un nombre d'Australiens, naturalisés Australiens, qui sont nés en Grande-Bretagne, qui est extrêmement important. Le chef de l'État et le roi ou la reine, enfin, en l'occurrence à l'époque le roi d'Angleterre. Donc le lien entre la Grande-Bretagne est très puissant, à la fois culturellement, militairement et surtout politiquement. Mais là, on se rend bien compte, Curtin a la lucidité de se dire. Bon, bah, en fait, nous, on va pas pouvoir tout seul. Les Britanniques, ça va être compliqué. Vers qui on peut se tourner? Eh bien, vers la grande force dans le Pacifique, en développement, parce qu'à l'époque, la grande force, c'est quand même le Japon, ça va être les États-Unis. Et en fait, l'aide, aujourd'hui, les Australiens, si vous voulez, ont une approche un peu romantique de ce moment-là. Les Américains viennent nous secourir. Les Américains, ils en ont un peu que faire de l'Australie. En fait, ils utilisent l'Australie parce que c'est une base arrière qui, géographiquement, est extrêmement bien située pour lancer des contre-offensives dans le Pacifique. Donc, pour vous donner une idée, entre 42 et 45, je crois qu'il y a à peu près 2 millions d'Américains qui stationnent à un moment donné ou à un autre en Australie. C'est gigantesque pour un pays qui fait 7 millions d'habitants. C'est une révolution culturelle. Ça change les pratiques de rendez-vous galant, ça importe des collants en nylon, du rouge à lèvres. Enfin, c'est un peu l'idée qu'on s'en fait, vous voyez, là, le débarquement en Normandie, quoi, si vous voulez. Et c'est une révolution culturelle, mais aussi technique. Les Américains construisent des aérodromes pour les avions, ils construisent des lignes de chemin de fer. Enfin, c'est un peu méconnu aujourd'hui des Australiens, mais entre 42 et 45, il y a énormément de choses qui sont faites par les États-Unis en Australie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent s'assurer une base arrière solide où ils ne peuvent pas être attaqués. Parce que vous avez plein d'endroits dans le Pacifique où ils peuvent stationner. D'ailleurs, ils stationnent aussi en Nouvelle-Calédonie, hein, soit dit en passant. Donc, les Américains essayent de reprendre, de remonter vers le Japon. Et il faut faire ça petit à petit, si vous voulez. Donc vous avez une série de batailles qui fait que les Américains progressent, mais la base arrière principale, le grand fait de guerre de l'Australie dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas tant la contribution au front que sa contribution en tant que base arrière américaine pour le déploiement des États-Unis dans cette zone. Parce que depuis le Pacifique, ils peuvent le faire depuis chez eux, mais ça fait quand même très loin. Mais dans cette zone sud-pacifique, ça permet aussi de contrôler ou de tenter de contrôler l'Indo-Pacifique. Et qui est-ce qui est envoyé par les États-Unis? Le général fameux MacArthur, qui est déjà une très grande personnalité militaire et qui va continuer à l'être à mesure que la guerre progresse.
Alors, on reviendra sur MacArthur un peu plus tard. L'autre point qui m'a semblé assez intéressant dans cette biographie de John Curtin, c'est que donc il est un premier ministre en pleine Seconde Guerre mondiale. On peut imaginer que ça occupe déjà beaucoup ses journées. Il vient par ailleurs de négocier une nouvelle alliance stratégique militaire qui change complètement la donne pour l'Australie et qui est encore active au moment où on se parle, 80 ans plus tard. Et dans le même temps, visiblement, il a quand même trouvé le temps aussi de mettre en place en interne, au niveau de l'Australie, un nombre assez impressionnant de réformes. Et je le rappelle, donc c'est quelqu'un qui vient plutôt de la gauche du Parti travailliste, et visiblement, il ne l'a pas oublié une fois au pouvoir, parce que les mesures mises en place, dans l'ensemble, on pourrait les qualifier de très progressistes.
Oui, c'est vrai. Alors, il n'oublie pas que c'est un premier ministre de gauche et les conditions sociales de ses concitoyens, ça lui importe. Et on peut mentionner, par exemple, qu'il introduit une pension pour les mères abandonnées, parce que vous êtes encore dans une situation où, pour un divorce sans faute, il faudra attendre encore 30 ans. Donc, quand vous êtes une femme avec des enfants et que votre mari vous abandonne, ça prend quand même du temps pour pouvoir avoir un divorce prononcé par une cour. Donc, on met en place un système de pension pour les aider. Les Australiens aborigènes voient comment dirais-je, leur pension, leur dotation via la sécurité. Enfin, comment dirais-je, oui, ils reçoivent plus d'argent pour les aider. L'allocation de maternité également est étendue à un certain nombre de personnes, dont les aborigènes, dont les personnes d'origine asiatique en Australie, dont par exemple les personnes qui viennent du Pacifique aussi, qui sont installées en Australie. Donc, si vous voulez, quand il fait ces réformes-là, c'est pas seulement pour les Australiens blancs, c'est aussi pour les Australiens de couleur. Il y en a très peu. Mais c'est quand même important de le noter. Ça, alors on peut lire ça comme une attitude antiraciste. En fait, c'est surtout une attitude progressiste de travailliste qui considère que les fruits du travail doivent être répartis à tous et qu'une société doit faire attention à ses plus faibles. C'est parce que ça reflèterait mal sur sa conception de l'Australie que ces choses sont faites. Pas vraiment par conviction de l'égalité entre... je déteste ce mot, mais c'est le mot qui était employé à l'époque. Entre les races, si vous voulez. Donc, effectivement, il y a des progrès sociaux pendant son mandat vis-à-vis des travailleurs, mais des réformes un peu plus structurelles également sur le système de taxation. Avant, chaque État taxait un peu différemment. Tout ça est harmonisé. Alors, parce qu'il y a la guerre, évidemment, et que ça permet au gouvernement fédéral d'obtenir plus de pouvoir. Hein, le jeu de l'Australie au XXe siècle, enfin le jeu de Canberra, c'est de prendre des pouvoirs d'État et de les ramener vers le gouvernement fédéral. Et généralement, les pouvoirs qui sont pris ne sont pas rendus au retour de la paix. Tout cela, enfin, ceci dit, effectivement, il mène de nombreuses réformes et c'est un planificateur, c'est-à-dire que dès 42, dès 43, il commence déjà à travailler sur la question de la sortie de guerre. Comment on va faire après la guerre pour continuer à produire et puis non seulement être dans le camp des gagnants, mais repenser l'architecture économique de l'Australie. Parce que on voit bien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Australiens en tant que base arrière produisent énormément pour l'effort de guerre. Et donc cette capacité de production, de manufacture, si vous voulez, il pense déjà à l'après-guerre en se disant voilà comment on va pouvoir positionner économiquement l'Australie dans le monde d'après la guerre.
Et alors, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, malgré le fait, ou plutôt peut-être à cause du fait qu'il a passé tant de temps à essayer de réfléchir à l'après-guerre, il va décéder avant que celle-ci se termine justement. Donc, son mandat de Premier ministre, enfin ses deux mandats au final, mandat incomplet, mais commence quelques semaines avant l'attaque de Pearl Harbor qui rend très concrète la Seconde Guerre mondiale pour l'Australie, et il décède quelques semaines avant la capitulation du Japon.
Oui, tout à fait. C'est très triste. Hein. Il décède. Je crois qu'il fait une crise cardiaque ou son cœur lâche. Et il meurt. Il meurt à Canberra et puis il est rapatrié à Perth où il est enterré. C'est assez touchant d'ailleurs parce que d'anciens premiers ministres sont ses porteurs, dont des premiers ministres d'opposition. Robert Menzies, qui est de droite, porte son comment on dit,
Son cercueil.
coffin. Son cercueil, je vous remercie. Donc, vous avez Billy Hughes, sur lequel on a fait un épisode, Earl Page, James Cullen et Menzies qui sont les porteurs. Je trouve qu'en termes de symbolique, c'est extrêmement touchant de voir que des premiers ministres de différents bords politiques se réunissent pour honorer sa mémoire. Alors, il y a certes la situation d'Union nationale pendant la guerre, mais c'est quelqu'un qui était respecté parmi ses collègues en politique parce qu'il s'entendait bien, du moins il était courtois et respectueux des avis différents que l'on pouvait avoir à la fois dans son parti, mais au-delà de son parti. Et donc effectivement il décède, mais ça, si vous voulez, tristement, c'est le lot d'un certain nombre de leaders en situation de guerre. Au même moment, vous avez Truman aux États-Unis qui finit pas non plus la guerre. Une autre guerre, la première, Woodrow Wilson, le président américain, c'est pareil, sa santé décline parce qu'en fait, c'est des situations qui sont extrêmement dures à vivre, dans laquelle, en tant que premier ministre ou président, vous retrouvez à prendre des décisions qui peuvent vouloir dire la mort pour vos soldats, par exemple. C'est quelqu'un qui était très, très, très inquiet du bien-être de ces divisions. Et effectivement, quand on a une défaillance cardiaque, c'est probablement pas recommandé de s'exposer à des niveaux de stress comme il a pu les connaître.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous proposera d'écouter d'ici quelques jours la dernière partie de cet épisode consacré à John Curtin, celle-ci s'intéressera plutôt au bilan de l'homme et à la postérité. Il est en effet encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands, l'un des meilleurs premiers ministres de l'histoire australienne. À très bientôt pour donc ce dernier épisode.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.